Vous écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 2h en temps universel.
Gali Bonin.
L'actualité, c'est d'abord cette entente entre Damas et les forces kurdes. Un accord a été signé pour faire revenir la région autonome au sein de l'État syrien après 14 ans d'autogestion. L'annonce survient au moment où se terminent les violences dans l'ouest de la Syrie. Faut-il y voir un lien entre les événements ? Non, nous dira un expert dans ce journal. La Corée du Nord serait sur le point d'obtenir son premier sous-marin nucléaire. Des images de propagande montrent le dictateur Kim Jong-un défiler dans un chantier naval, une menace qui inquiète à Séoul et à Washington. Les États-Unis, où a été arrêté l'ancien organisateur de Miss Rwanda, celui qu'on surnommait Prince Kid, était en cavale depuis sa condamnation pour viol et sollicitation de faveurs sexuelles à Kigali en 2023. Et la France a présenté un nouveau plan d'adaptation au changement climatique. Réception mitigée chez les observateurs et les spécialistes. C'est une étape importante de l'unification syrienne. Damas a annoncé la signature d'un accord avec les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. Autonomes depuis le début de la guerre en 2011, les institutions civiles et militaires du Kurdistan syrien reviendront sous l'autorité de Damas d'ici la fin de l'année. L'annonce survient au moment où la Syrie a traversé ses pires violences depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Au moins 1 millier de morts civiles dans la minorité Alaouite, communauté de l'ancien dictateur. Mais selon le chercheur Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS, il n'y a aucune corrélation entre les deux événements.
C'est des négociations en fait de long terme. On approche du 15 mars. Le 15 mars, ce sera l'anniversaire de la révolution syrienne. Il va falloir montrer un pays qui a une certaine forme d'unité dans l'accomplissement de sa révolution désormais. Et au-delà des événements récents qui sont venus très clairement entacher ce sentiment qu'il y avait d'ouverture sur l'avenir, avec certes toutes les côtés sombres qui pouvaient demeurer, il y avait cette nécessité d'apparaître unis. Et probablement que dans ce calendrier qui était établi, il fallait montrer ce visage. Cette annonce tombe dans ce calendrier-là et doit être très probablement déconnectée des événements de ces derniers jours.
Cédric Labrosse au micro de Théo Renaudon. En Syrie, toujours, l'agence de presse officielle Sana rapporte des frappes israéliennes dans le sud du pays, à quelques dizaines de kilomètres de l'État hébreu. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les Israéliens auraient ciblé des zones militaires de l'ancienne armée syrienne. Un poste d'observation et des chars auraient été touchés. Depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre, Tel Aviv a multiplié les frappes en Syrie. Israël demande notamment la démilitarisation totale du sud du pays. Israël qui a coupé net l'approvisionnement en électricité dans la bande de Gaza. Ce blocus qui s'ajoute à celui de l'aide humanitaire et du carburant la semaine dernière. L'ONU se dit très préoccupée par ces décisions. Sans électricité, impossible de faire tourner la seule usine de dessalement d'eau de mer de l'enclave palestinienne. Selon les Nations Unies, cette pénurie menace également les établissements de santé encore opérationnels et les boulangeries de la bande de Gaza. En Corée du Nord, le régime a dévoilé des images de ce qui serait son premier sous-marin nucléaire. Kim Jong-un a visité le chantier naval où est construit le navire qui pourrait radicalement changer le rapport de force dans la région. Une annonce qui ne manque pas d'inquiéter son voisin du Sud. Les précisions de notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti.
Sur les photos du chantier prises par les médias nord-coréens, Kim Jong-un apparaît tout sourire face à l'imposant navire. Entre 6 et 7 000 tonnes, d'après les estimations, ce sous-marin nucléaire pourrait emporter avec lui près de 10 missiles équipés de charges atomiques. Le régime nord-coréen n'a donné aucun détail concernant ce navire, mais l'acquisition d'un sous-marin nucléaire est un projet de longue date pour la Corée du Nord. Le régime possède déjà entre 70 et 90 sous-marins classiques. Le développement d'un sous-marin nucléaire lui permettrait une force de frappe plus importante et un déploiement plus au large. Kim Jong-un a justement indiqué que le lancement du sous-marin d'ici 1 à 2 ans ne se limiterait pas aux eaux territoriales nord-coréennes. Pour Séoul et Washington, il s'agit désormais d'anticiper ce nouveau rapport de force et de comprendre quelle aide le régime a-t-il obtenue pour développer ce sous-marin. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Hospitalisé pour une double pneumonie, l'état de santé du pape François s'améliore, annonce le Vatican. Son état clinique s'est stabilisé et le souverain pontife répond bien au traitement. S'il est trop tôt pour parler d'un retour à sa résidence, les médecins ont évalué lundi soir que son pronostic vital n'était plus engagé. À 88 ans, François a rencontré plusieurs problèmes de santé ces dernières années, douleurs aux genoux, opérations du côlon et de l'abdomen et une fragilité respiratoire qui le suit depuis ses 21 ans. C'était une affaire qui avait fait grand bruit au Rwanda à l'époque. L'ancien organisateur du concours de beauté Miss Rwanda, condamné à 5 ans de prison pour viol et sollicitation sexuelle sur d'anciennes candidates, il avait pris la fuite pour se réfugier à l'étranger et il vient d'être retrouvé et arrêté aux États-Unis. Les explications de notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillot.
Le service de l'immigration et des douanes américaines affirme avoir arrêté Dieudonné Ishimwe, également connu sous son nom de scène Prince Kid, à Fort Worth au Texas, où l'homme de 38 ans résidait sans autorisation. L'ancien organisateur de Miss Rwanda avait pourtant été condamné en octobre 2023, en son absence, par la haute cour de Kigali pour viol et sollicitation de faveurs sexuelles, des accusations portées dès 2022 par d'anciennes candidates du concours de beauté. Les autorités américaines affirment que Dieudonné Ishimwe est entré légalement aux États-Unis sans préciser la date de son arrivée. Elles affirment qu'il a ensuite violé les conditions de son admission et que le procureur de la République du Rwanda a émis un mandat d'arrêt contre lui pour viol en octobre 2024, soit un an après sa condamnation. Dieudonné Ishimwe reste en détention dans l'attente de la procédure d'expulsion vers son pays d'origine. Depuis l'éclatement de l'affaire en 2022, aucune nouvelle édition du concours de Miss Rwanda n'a été organisé. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Au Canada, le futur premier ministre Mark Carney promet une passation rapide du pouvoir. Celui qui va succéder à Justin Trudeau n'a toutefois pas précisé le calendrier de son entrée en fonction. Mark Carney a remporté dimanche soir haut la main la course à la chefferie du Parti libéral au pouvoir depuis près de 10 ans au Canada. Mais le futur prochain premier ministre risque de rester un peu dans l'ombre, rester peu de temps en poste. Des élections doivent se tenir au plus tard en octobre. Les analystes tablent plutôt sur un scrutin dans les prochaines semaines. En mer du Nord, un porte-conteneur et un pétrolier sont entrés en collision au large de l'Angleterre. Des images impressionnantes montrent des bateaux ravagés par les flammes. Une trentaine de marins ont été évacués, mais un homme manque toujours à l'appel. Un des réservoirs de kérosène du pétrolier a été percé et le carburant s'est répandu dans l'eau. Le porte-conteneur lui transportait une importante cargaison de cyanure de sodium, un gaz inflammable et très toxique. L'ONG écologiste Greenpeace suit de près les développements et se dit extrêmement préoccupé par les risques pour l'environnement. Le gouvernement français a présenté ce matin son troisième plan national d'adaptation au changement climatique, le PNACC. 52 mesures pour davantage protéger les populations, mieux anticiper les risques et améliorer la résilience des territoires. Un plan qui se base sur une trajectoire de réchauffement à plus de 2,7 degrés en 2025 et plus 4 degrés en 2100. Mais les observateurs ne sont pas entièrement satisfaits. Pauline Glaise.
Se préparer à l'augmentation des incendies, adapter les conditions de travail en obligeant les employeurs à faire davantage de prévention ou encore protéger la population des risques naturels en montagne, voilà quelques-uns des grands objectifs fixés par ce plan. Élise Nakarato d'Oxfam salue la présentation d'un plan d'adaptation, mais reste sur sa fin.
C'est très bien que la question de l'adaptation soit portée par le gouvernement. Mais malheureusement, en fait, le plan national d'adaptation au changement climatique, il s'arrête au milieu du gué. Il dit la direction où il faut aller, mais il ne donne pas les moyens d'action ni la forme de mise en œuvre.
Autre point clé, le financement. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a insisté sur l'intérêt économique de s'adapter. Mais Vivian Despoest du think tank I4C craint que le compte n'y soit pas.
On ne dispose pas de chiffres du besoin total de combien il aurait fallu, tout sujet confondu. Mais pour prendre qu'un seul exemple, elle a annoncé 30 millions d'euros pour la prévention du risque de retrait gonflement des argiles et les différentes propositions qui étaient sur la table citaient plutôt l'ordre de grandeur de 100 millions.
Il salue en revanche la volonté de donner une valeur juridique à la trajectoire, la hausse de température de référence prise en compte pour l'adaptation. Une fois actée, cette trajectoire devrait par exemple avoir un impact sur les plans locaux d'urbanisme.
Les précisions de Pauline Glaise qui mettent fin à ce journal.